Et il y a toute une série de chambres qui communiquent par des tunnels. Il y a aussi des chambres où on peut mettre les déchets, par exemple. Quand les jeunes fourmis éclosent, elles perdent leur cocon. Donc ça, c'est mis dans les déchets.
Comment la vie s'organise-t-elle au sein d'une fourmilière? Est-ce une société hiérarchique?
Alors, très hiérarchisée, oui, parce qu'on parle de reine. C'est le sommet de la hiérarchie. Mais ce n'est pas une reine qui commande. C'est une reine dont le seul rôle est de pondre. Et elle ne commande pas en donnant des ordres. Les fourmis, par leur instinct, en quelque sorte, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles n'ont pas besoin d'être commandées. Alors on dit que c'est... Alors c'est un mot un peu compliqué, que c'est auto-organisé. C'est-à-dire que ça se met en place spontanément. Ça s'organise tout seul. Chacun sait ce qu'il a à faire en fonction de son statut. Donc il y a la reine qui pond. Ensuite, il y a les ouvrières qui sont stériles, qui ne pondent pas. Donc qui sont uniquement les travailleuses. Et ensuite, alors il y a des mâles, mais le rôle d'un mâle chez les fourmis, c'est pas brillant. Les mâles, ils servent juste à la reproduction. Ils vivent quelques semaines au printemps. Ils vont éclore sur les petites fourmis des jardins. Les mâles vont éclore au mois de juin. Ils vont vivre un mois. Et quand les jeunes reines sortent, s'envolent, les mâles s'envolent pour le vol nuptial, les mâles s'accouplent et après ils meurent.
Peut-il exister au sein d'une même colonie plusieurs types de fourmis?
Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle des castes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences de taille, il peut y avoir des petites ouvrières, des ouvrières plus grandes. Donc en général, les petites, elles restent dans la colonie, les plus grandes, elles sortent pour aller chercher la nourriture. Il peut y avoir aussi de véritables différences avec des fourmis de plus grande taille qu'on va appeler des soldats, qui ont de grandes mandibules et qui servent à la défense. Chez les fourmis moissonneuses, elles servent aussi avec leurs mandibules à couper les graines. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, les soldats servent à défendre. C'est-à-dire quand il y a des processions, des pistes de fourmis où elles vont couper les feuilles, les soldats sont sur le bord et empêchent des intrus de venir, d'autres prédateurs de venir. Et c'est des soldats avec des mandibules, quand ça coupe, ça fait très mal. Ils sont même capables de couper une botte. Un morceau de botte, faire des entailles dans des bottes. Donc c'est très efficace comme système. Il y a aussi, dans le sud de la France, petites fourmis qui vivent dans des branches d'arbres creuses. À la sortie du nid, il y a des individus qu'on appelle des portiers. C'est des fourmis dont la tête est carrée au bout. Ces espèces de portiers, ces sortes de soldats, restent là en permanence pour boucher l'entrée du nid. Alors s'il y a une copine qui arrive, elle tape avec ses antennes, elle est reconnue, et l'autre la laisse passer. Donc il y a des grandes différenciations dans les types de fourmis. Et à l'intérieur d'une fourmilière, toujours dans le sud de la France, on peut trouver des mêmes ouvrières. Il y en a qui peuvent faire moins d'un millimètre, puis d'autres qui vont faire 4-5 millimètres en pays tropical, oui.
Pour défendre la colonie, il n'y a que les soldats?
Non, 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 il y a beaucoup d'espèces où il n'y a pas de soldats. Il peut y avoir tout simplement des ouvrières qui sont spécialisées dans la défense, et qui savent différencier, reconnaître des individus étrangers.
Comment les fourmis peuvent-elles se reconnaître quand il y a des attaques ou qu'on met une fourmi dans une autre colonie?
Oui, alors c'est ce que je viens de dire. La fourmilière, c'est un milieu de matriarcat, c'est-à-dire que c'est un domaine, il n'y a que des individus femelles dans la colonie. C'est un milieu donc matriarcal, mais très fermé. C'est-à-dire que tout individu qui n'appartient pas à la colonie est rejeté comme étranger. C'est une manière de se protéger. Et alors, comment ils se reconnaissent? Ils se reconnaissent parce que les fourmis ont sur leur cuticule, leur carapace, elles n'ont pas de squelette interne comme nous. Vos os, ils sont à l'intérieur du corps. La fourmi, ils sont à l'extérieur. Ça fait un squelette externe. Et ça, c'est très rigide, très solide. Et sur ce squelette, il y a plein de substances chimiques. Vous aussi, hein, sur la peau, il y a plein d'odeurs, il y a plein de choses. Donc chez les fourmis, c'est pareil. Et avec ça, elles se reconnaissent. Alors on étudie ces substances. Ce sont des substances, bon, on ne va pas parler de chimie ici, mais c'est des substances qu'on peut reconnaître assez facilement, identifier avec des appareils de chimie spécialisés qui permettent d'identifier et de mesurer ces substances. Si vous prenez une fourmi noire et une fourmi rouge, elles n'ont pas les mêmes substances, donc c'est facile. Si vous prenez deux colonies de fourmis noires, elles ont les mêmes substances, mais en quantité différente. Ça sent plus ou moins fort, entre guillemets. Donc elles peuvent se reconnaître. Et alors comment elles se reconnaissent? En s'approchant. Ce n'est pas des substances volatiles, ce n'est pas comme des fleurs. Il faut s'approcher, il faut toucher avec les antennes. Ah, toi, tu n'es pas de ma colonie. Avec les antennes, elles sont capables de reconnaître. Toi, tu es d'une colonie étrangère. Donc, qu'est-ce qu'elles font dans ce cas-là? Soit elles se sauvent pour éviter le combat, soit elles s'attaquent, elles se battent, etc. Et même le sol à proximité de la colonie est marqué par ces odeurs aussi. Donc, une fourmi étrangère qui arrive avec ses antennes, elle va sentir le sol, elle va dire « Oh, ça, c'est pas ma colonie ». Elle fait demi-tour.
Donc en fait, elles mangent de tout.
La plupart des fourmis sont omnivores. Elles mangent des proies, du miellat de puceron, des sucres, etc. Donc c'est très, très varié. Alors il y a des fourmis qui sont spécialisées dans leur nourriture. C'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé des fourmis moissonneuses qui mangent des graines. Il y a des fourmis qui sont uniquement prédatrices. Ça veut dire qu'ils capturent d'autres animaux, comme des chenilles, par exemple. Alors il y a des fourmis très très prédatrices, vous avez peut-être entendu parler des fourmis magnans, des fourmis légionnaires en Afrique. C'est des fourmis qui font des raids et qui vont manger tout ce qu'elles trouvent sur leur passage, toutes les proies qu'elles peuvent trouver. Et c'est des millions de fourmis qui s'avancent comme ça, qui forment une colonne avec les soldats dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles mangent tout. Moi j'ai eu l'occasion de voir en Côte d'Ivoire, dans un laboratoire en forêt tropicale, il y avait des aquariums, et une nuit, il y a des fourmis magnans qui sont arrivées. Elles ont mangé tous les lézards et les serpents qui étaient dans les aquariums, qui n'ont pas pu se sauver. On ne s'en est pas aperçu, le matin on est arrivé, il n'y avait plus que les squelettes. C'était impressionnant. Ça, c'est vraiment la prédation. Alors, il y a des fourmis aussi qui mangent des feuilles. Ça, c'est des fourmis qu'on trouve en Amérique tropicale ou en Guadeloupe. Elles montent sur les arbres, elles coupent des petits morceaux de feuilles, et elles redescendent, elles ramènent les feuilles à la colonie. En procession, on voit toutes ces fourmis avec les feuilles. Et en Guadeloupe, on les appelle des fourmis parasols. Pourquoi parasols? Parce qu'on a l'impression qu'elles prennent le morceau de feuille pour se protéger du soleil. Et ça, elles sont capables de défolier un arbre en une nuit aussi. Elles sont dangereuses dans les plantations d'agrumes, d'orangers, etc. En forêt tropicale, c'est pas dangereux parce qu'il y a des arbres qui savent résister à ces fourmis. Bon, elles font partie de l'équilibre de la forêt parce qu'elles creusent très très profond, ça travaille la terre.
D'où tirent-elles leur force?
Oui, pardon. Ces fourmis mangeuses de feuilles, en fait, elles ne mangent pas les feuilles. Elles broient les feuilles avec leurs mandibules. Et en fait, elles donnent ces feuilles à manger à des champignons. Elles cultivent des champignons. Elles ont inventé l'agriculture. Elles cultivent les champignons et les larves des fourmis mangent le champignon. C'est très spécialisé et c'est vraiment très intéressant comme système.
Sinon, d'où tiennent-elles leur force pour soulever les feuilles ou les proies?
Comme je vous l'ai dit, les fourmis n'ont pas de squelette interne, elles ont un squelette externe. C'est ce qu'on appelle la carapace, comme les crabes par exemple. Ça fait un peu comme un extraterrestre avec son squelette, quoi, enfin sa carapace. Et c'est extrêmement fort. Une fourmi, elle est capable de porter, je crois... Alors, je ne me souviens plus, mais c'est 200 fois son poids sans aucun problème. Parce que c'est rigide. Donc il y a des articulations. Alors ça a des inconvénients, c'est pas souple. Chez les fourmis, il y a l'œuf. Ensuite, il y a la larve. Et la larve, elle va grossir. Donc elle peut changer. Et après, il y a l'adulte. Et l'adulte ne peut plus changer. Ne peut plus muer. Parce qu'il a sa taille définitive, avec son squelette définitif. Donc évidemment, quand elles se mettent à plusieurs, elles sont capables de tirer des proies très très lourdes.